Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Nous sommes toujours avec Erika Parlato Oliveira, clinicienne et chercheuse en sciences cognitives, psychanalyste et formatrice pour le personnel de la petite enfance. Erika Parlato Oliveira porte un regard nouveau sur les bébés. Dans l'épisode précédent, elle nous a expliqué que, dès la naissance, les bébés sont des êtres de langage, même s'ils n'ont pas les mots pour le dire. Les bébés ont un système complexe de langage. Ils peuvent parler avec des gestes, un index qui se lève, un regard, une expression du visage. Pour Erika Parlato Oliveira, les bébés sont dès la naissance de véritables interlocuteurs. C'est avec ces paroles en tête que je suis allée passer une matinée dans la crèche Cérep Fimentin qui se trouve juste en dessous du Baby Lab que dirige Erika Parlato Oliveira. Incroyable bébé, ils m'ont happé. Je n'arrivais plus à partir de la crèche. Je n'avais plus envie de les quitter. Ces bébés que j'ai rencontrés ont moins d'un an. Ils sont tous venus me chercher, chacun à leur manière, avec un regard, un sourire, une clochette, un doudou, des vocalises. Ils étaient curieux, intrigués par cette nouvelle tête, par ce drôle de magnétophone, et tous très heureux de pouvoir jouer avec le fil de mon casque. J'ai eu de véritables échanges avec ces bébés. Avec certains, je crois bien que nous nous sommes parlé.
Rose, te voilà. Ah, mais ça y est, tu me parles, Rose. Bonjour, Rose. Ça, c'est un casque. J'ai mis un casque sur ma tête pour bien t'entendre. Et comment je fais, moi? Hein? Et oui, comment je fais? Comment je fais si t'as mon cordon?
Dans la crèche Cérep Fimentin, j'ai été très impressionnée par la façon dont les puéricultrices s'adressent aux bébés.
Et après, qu'est-ce qu'on va faire?
Elles leur disent et leur expliquent tout ce qu'elles font. Quand elles les changent, quand elles leur donnent à manger, quand elles les prennent dans leurs bras. C'est ce qu'on appelle l'approche piclérienne. Jamais intrusive, elles font preuve d'un grand respect envers les bébés.
Et après, le biberon. On fait comme ça. T'as bien compris, hein? Tu viens? Tu viens? On y va? Allez, viens. Viens, joli bébé, viens.
Je sais qu'Erika Parlato est en accord avec cette approche et qu'elle pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour que nous respections vraiment les bébés.
Demain, qu'on discute des coquilles. Des coquilles. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis je pleure ou viens me voir, c'est chouette. T'as raison. De toute façon, il n'y a que comme ça que tu peux le dire. Oh, bon, oui. T'as envie de rigoler? Mais c'est quoi ça? C'est la rigolade. C'est la grosse rigolade.
Erika Parlato Oliveira est brésilienne et italienne. Elle a mené plusieurs recherches comparées entre le Brésil et la France, dont une qui porte sur les dialogues entre les adultes et les bébés. Cette étude a été réalisée et publiée en collaboration avec les chercheuses Baya Guélet et Maya Gracier.
À 4 mois, on a filmé des bébés avec des mères. Et après, donc, nous avons analysé les données. Donc, il y a plein de données qui sortent. C'est très intéressant. Mais les données là qui je trouve géniales, c'est par rapport au tour des paroles. Donc, comment on fait, nous, les adultes, pour savoir que l'autre va s'arrêter et ça va être mon tour? Donc, on fait attention que l'autre, il va changer le rythme. Il y a l'intonation qui baisse. Bon, il va s'arrêter. C'est à moi. D'accord. Et les bébés? On ne sait pas. Donc, on a analysé les films et on a vu que les bébés aussi, ils font attention à la façon que l'autre parle, de telle façon qu'au moment que la mère s'arrête, elle dit « Ah oui, mon bébé !» Ah, il n'y a pas de pause. Si on regarde les logiciels avec les spectrogrammes, on voit que la mère arrête, le bébé commence. C'est pas qu'il a attendu la pause, il a dit « Ah, d'accord, elle a s'arrêté, maintenant c'est à moi, je me prépare, je vais parler. » Non, la mère arrête, il commence. Donc, il a déjà anticipé qu'elle va arrêter pour se préparer et prendre son tour. Donc, pour les bébés français, on était déjà assez surpris qu'à 4 mois, ils sont capables de faire ça. Mais on était encore plus surpris en comparant les données avec les bébés brésiliens.
Pourquoi ?
Parce qu'au Brésil, il n'y a pas les tours des paroles comme en France. Au Brésil, tout le monde parle le même ton, comme en Italie. Donc, les dimanches, les déjeuners de dimanche, on va entendre celui qui parle le plus fort. Et les bébés à 4 mois, ils ont déjà appris ça. C'est-à-dire qu'on trouve plus des moments où la mère et les bébés parlent le même ton chez les bébés brésiliens. Et on ne tourne pas ça chez les bébés français. Donc, à 4 mois de vie, les bébés ont déjà compris plus que la langue, ils ont déjà compris qu'est-ce qu'on attend de lui par rapport à chaque couture. Ils sont forts, hein?
Ah ouais.
Ils sont très forts, ces bébés de 4 mois. Ils sont capables d'analyser la prosodie de la langue dans laquelle on leur parle et d'anticiper leur prise de parole pour intervenir au bon moment. Que savons-nous de ce que savent les bébés? Pas grand-chose, répond Erika Parlato Oliveira. Et c'est justement ça qui l'intéresse. Montrer, démontrer les capacités, les possibilités, les savoirs des bébés dont nous sommes encore loin de mesurer l'étendue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des bébés? Erika Parlato Oliveira est une chercheuse singulière. Elle pose des questions aux bébés auquel je n'aurais jamais pensé.
Quelles sont les questions que vous aimeriez poser aux bébés et que vous ne leur avez pas encore posées?
Beaucoup du côté de la intentionnalité du bébé. Parce que si on imagine que dans les ventres, il faisait des choses, il pouvait tourner d'un côté à l'autre, soucier son... Voilà, donc il pouvait faire des choses. Après, on change dans une ambiance aquatique vers une ambiance aérienne. Et là, il ne peut plus faire des choses. Donc ça m'intrigue. Comment il va vivre cette impossibilité, quelque chose qui, avant-hier, dans les ventres, il était capable de faire. Et aujourd'hui, après l'accouchement, il y a un événement. Et tout de suite, il y a la pesanteur, il y a les rapports avec son corps et l'espace qui changent et ça l'empêche de faire des choses du côté moteur. Mais dans sa tête, il savait très bien comment faire avec son petit bras jusqu'à la bouche, etc. Donc, comment les bébés vivent cette situation d'être capable de faire, il y a un événement et après, je ne peux plus faire. Et là, il faut reconstruire tout ça du côté moteur. Comment je vais faire maintenant pour lutter contre la force de la gravité, etc. Mais dans sa tête, il savait déjà, donc il planifie des choses. Donc, pour moi, c'est incroyable que malgré les faits qu'il ne peut pas parler avec des mots, dans sa tête, il y a plein de projets. Et c'est ça que je voudrais découvrir, de savoir comment il pense les choses. Mais de toute façon, les bébés sont dans son corps et il interprète la situation. Donc, il faisait une chose, maintenant, il ne peut pas faire. Comment il va gérer cette situation? Donc, c'est pas forcément avoir ou ne pas avoir des consciences, c'est un sujet très compliqué, mais déjà accepter que les bébés interprètent qu'est-ce qui se passe avec lui, avec son corps.
Qu'il interprète ce nouveau monde, comment il l'interprète et comment il fait pour s'adapter à ce nouveau monde dans lequel il est jeté.
Oui. Plus que s'adapter, parce que là, il fait des hypothèses. Je travaille en partenariat avec une collègue néonatologiste, pédiatre, qui est aussi photographe. Et là, dans ces moments, elle est en train de prendre des photos des bébés assez petits face à son émerveillement au moment qu'on propose des boules de savon. Vous savez que les enfants adorent ça.
Oui, quand on souffle et qu'on fait des boules de savon.
Il y a les boules. Pourquoi les enfants aiment bien ça? En fait, l'hypothèse, c'est que la plupart du temps, les choses tombent. Et les bébés ont déjà compris ça. Donc, si on laisse tomber la tétine par terre, bon, elle va par terre. Et qu'est-ce qui se passe avec la boule de savon? Le contraire. Elle ne va pas par terre. Elle se promène. Et en plus, à un moment donné, elle disparaît. Donc, pour les bébés, qui a déjà des hypothèses physiques qui disent, mais voilà, dès qu'il y a une chose qui, on laisse, elle va par terre, elle tombe, là, la boule de savon, elle ne fait pas ça. Donc, on voit bien, dans les photos de Glaucia Galvão, les bébés qui regardent les boules de savon, les yeux ouverts, ils vont faire des mouvements avec les visages qu'on voit qu'ils sont en train de comprendre. Mais comment ça, c'est possible, là? Qu'est-ce qui se passe?
Quel âge ils ont?
Là, elle a commencé à faire des photos à partir des 3 mois. 3 mois et les bébés sont merveillés. C'est-à-dire, si ça attire l'attention du bébé, c'est parce qu'il y avait déjà une hypothèse. Il y a quelque chose là, d'ordre de la surprise, qui dit mais non, c'est pas possible.
C'est pas les couleurs, parce que ça a des très jolies couleurs, les bulles de savon. Vous pensez pas que c'est les couleurs, la transparence, j'allais dire la
poésie aussi. Mais voilà, pourquoi pas? Je pense que c'est un ensemble.
Donc ça pourrait participer de cette question que vous vous posez, c'est-à-dire comment les bébés de quelques mois
interprètent
le monde.
Il interprète, donc il fait déjà des hypothèses. Et après, donc, il va vérifier ces hypothèses, comme nous.
Et vous pensez qu'il fait des hypothèses dès la naissance?
On ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore testé dès la naissance, mais c'est possible.
Les bébés ont donc des intuitions physiques. Ils vont au-delà des sensations. Ils sont, dès leur naissance, à la recherche de savoir sur le monde qui les entoure. Les bébés analysent et interprètent le monde dans lequel ils viennent de naître.
Comme on peut naître n'importe où, à Pékin ou à Paris, donc les bébés arrivent avec la possibilité de discriminer tous les sons de toutes les langues. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer?
Les langages.
Il va toujours écouter les mêmes. Donc, il va laisser tomber les autres qui ne sont pas importantes. Il va garder celui qui est dans la langue où il est, c'est important. Donc, il y avait plus et on va vers les moins.
Oui, c'est ça, les langages. C'est ce qu'on appelle les langages. Et on a la même chose sur la perception des visages. Un bébé peut percevoir tous les visages de toutes les ethnies différentes. Et après, il va pouvoir reconnaître, il va perdre ça. Mais ça veut dire qu'à la naissance, le bébé...
Il y a toutes les possibilités du monde.
Mais ça veut dire qu'il a un cerveau beaucoup plus puissant que le nôtre.
Non, il y a toutes les possibilités, tout est ouvert. Et après, au fur et à mesure, les choses commencent à être plus singulières. Voilà, donc s'il est né en France, il va parler français. Mais s'il y a à la maison déjà une deuxième langue, donc il va être bilingue tout de suite. Donc il a toutes les possibilités. Et par rapport à la façon qu'on va manipuler les objets aussi, il est capable de prendre une cuillère et faire du son avec. Nous, non, on va dire, mais non, la cuillère, c'est pas pour ça. Donc, on va toujours réduire. Lui, il y a toute l'imagination. Une cuillère, ça peut servir à beaucoup, beaucoup de choses. Pas nous. Dans cet aspect, ils sont beaucoup plus ouverts que nous. Ils profitent de toutes les choses du monde. Ils explorent tous les tons. C'est un travail très fatigant, j'imagine.
D'explorateur du monde. Et ce que vous dites aussi, ce que j'ai lu, c'est qu'il fait, il explore, il interprète et après, il teste ses hypothèses comme un scientifique.
Exactement, exactement. Je pense que nous, on essaye de faire comme lui, hein. Avoir des hypothèses les plus variées possibles. Parce que nous, parfois, on dit, ah, c'est ou ça. Les bébés, non. Il va tester plusieurs hypothèses. Il va voir, mais ça peut être ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, c'est à l'infini.
Mais ça veut dire quand même émettre des hypothèses, tester des hypothèses, ça montre...
C'est un chercheur. C'est un vrai chercheur, les bébés.
Oui, mais du point de vue cognitif, enfin, du point de vue, c'est extraordinaire.
Oui.
Les bébés sont des chercheurs, mais ne sont-ils pas aussi un peu poètes? C'est la question que je me suis posée en écoutant Erika Parlato-Olivera me parler de cette expérience avec les bulles de savon. Les bébés ne seraient-ils pas sensibles à la beauté et à la poésie des bulles de savon? Les bébés pourraient-ils avoir des intuitions poétiques? J'ai profité de la présence ce jour-là de Bernard Gols, professeur en psychiatrie infantile et ancien chef de service à l'hôpital Necker, pour lui poser cette question. Les bébés sont-ils des poètes?
Avec Erika, il y a une recherche plus ou moins en cours. Elle est compliquée, mais enfin, peut-être on arrivera à en sortir quelque chose. Les bébés naissent-ils poètes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auraient une aptitude immédiate à une sensibilité poétique, artistique?
Et comment on teste?
Erika en parlera mieux que moi, mais c'est là que c'est difficile.
Donc, Carlos Laredo, c'est quelqu'un qui vient du théâtre, qui aime bien travailler autour de l'enfant et qui a proposé de faire des pièces de théâtre pour les bébés avec des mesures biologiques, on va dire comme ça. Donc, il y a des paramètres quantifiables.
En fait, qui traque l'émotion, si vous voulez.
Oui, c'est ça.
Qui reflète le niveau émotionnel du bébé quand il est confronté à une chose artistique. Mais en fait, pour répondre à votre question, il faut penser à la poésie, par exemple, et aux correspondances. Les correspondances poétiques, sensorielles, les métaphores qui transforment, qui passent une information d'un canal sensoriel à l'autre. Hein. La terre est bleue comme une orange. Oui. Et de son côté, le bébé, très tôt, il a aussi des capacités de passer les informations d'un canal à l'autre. Si vous montez, l'expérience est très classique aussi, on met dans la bouche d'un bébé, sans qu'il le voie, enfin, il le sent, mais on ne lui montre pas la tétine, on ne lui passe pas devant les yeux, on lui met directement dans la bouche une tétine plus ou moins longue, large, courte, pointue, ronde, etc., enfin, d'une forme un petit peu particulière. Il l'explore tactilement avec ses lèvres, ses dents, sa bouche, sa langue, etc., sans qu'il la voie. Mais après, si vous lui montrez des photos de tétine, de formes différentes, il va s'orienter très spécifiquement sur celle qu'il a explorée par la bouche. C'est-à-dire qu'il a transféré une information du canal tactile, là aussi, à une information visuelle. Et Sidbon et Mazet disaient, cette rencontre entre la transmodalité maternelle et la capacité aussi de transmodalité du bébé, c'est peut-être là les racines de la métaphorisation humaine, la métaphore étant au socle de la poésie quand même.
Ne fait aucun doute, pour Bernard Gols, que les bébés sont des poètes. Et ce n'est pas tout. Erika Parlato-Olivera veut développer deux projets autour de la danse et du chant. Et si les bébés savaient danser avant de savoir marcher? Et si les bébés savaient chanter avant de savoir parler? Drôle de question? Ce sont celles que se pose Erika Parlato-Olivera. Et pourquoi pas?
Sinon, il y a encore l'autre grande salle qu'on peut visiter à côté.
Allons-y.
Donc, on va vers l'autre salle. On passe par la salle d'attente, la salle de travail. Et on va vers l'autre salle.
Babylab Fimentin.
C'est une salle vide. Et c'est dans cette salle qu'on va faire des recherches plus spontanées. Donc là, ce n'est pas des tests. En fait, ici, au coin de la pièce, on a une caméra qui filme à 360. Donc là, on a un partenariat avec un danseur, Thierry Lafont, qui va venir au Baby Lab proposer de la danse au bébé, avec l'idée, en fait, de partir du bébé vers les danseurs. On va essayer de découvrir si les bébés font déjà de la danse.
Donc vous allez mettre de la musique?
Oui, il aura de la musique. On a déjà choisi des différentes musiques. Et on va, dans cette pièce qui va être totalement vide, avoir l'occasion de filmer les bébés avec cette musique et voir les mouvements du bébé par rapport à les rythmes. On va filmer, donc après, on va faire des micro-analyses des films.
Quel âge les bébés?
On va commencer à 6 mois. Donc, on va faire entre 6 et 12 mois, donc les bébés qui ne marchent pas encore, et un groupe de bébés qui marchent déjà, donc autour des 15-18 mois. En parallèle, il y a une autre recherche aussi, musique bébé, un partenariat avec une musicienne qui s'appelle Bethania Paris, elle est prof à la fac de musique, et son idée à elle, c'est que les bébés qui commencent à produire des sons, ils chantent.
C'est-à-dire au moment du babillage?
Avant le babillage, parce que le babillage, on dit que c'est déjà à partir du moment que le bébé est dans une posture verticale, il va faire des consonnes voyelles, donc il fait pa, 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 ba, ba, ba. Ça, c'est déjà trop tard. On pense que c'est beaucoup avant, c'est au moment qu'il produit que des voyelles encore, donc il fait ah, mais peut-être il fait déjà avec des mélodies, il fait déjà en train de chanter. Elle a des films déjà qui sont été faits, elle m'a montré des films qui sont incroyables parce qu'on voit bien, c'est un bébé à 4 mois, on voit bien qu'il produit des sons pour les plaisirs, c'est pas pour appeler l'autre, c'est pas... c'était vraiment comme on chante. Et là donc, un partenariat avec des musiciens, on va essayer de comprendre si on peut caractériser ça comme de la chanson, de la musique ou pas.
Vous allez travailler sur l'intentionnalité, là, dans votre ce nouveau Babylab. Vous savez déjà sur quoi vous allez commencer à travailler avec les bébés des deux crèches?
Oui, donc on a plein de plans du projet, en fait, parce que j'ai des étudiants en master, un doctorat et un post-doctorat qui viennent travailler avec nous. On a des partenariats avec la Chine, le Brésil, l'Équateur, la Belgique. Donc, chaque étudiant vient avec un projet. Donc, dans ces moments, on a un projet, par exemple, autour de l'art et bébé. Demain matin, je parle au Pompidou pour une formation des artistes par rapport au savoir du bébé. Je suis très, très contente d'avoir cette invitation pour parler à des artistes qui vont proposer d'expos aux bébés.
Parce que vous pensez que les bébés peuvent regarder une expo?
À moi, je pense qu'ils peuvent faire de l'art. Voilà. Ça, c'est tout nouveau. Donc, je viens de finir un article là qui sort en septembre. Je vais parler de ça à la journée Spirale à Toulouse cette année. Donc, il y a la revue Spirale. Et à chaque année, il y a une journée dédiée à un sujet. Et le sujet de cette année, c'est les bébés et l'art. Et pour ça, j'ai mis plancher vraiment sur la question pendant un bon moment. Et là, j'ai proposé que les bébés aussi, ils font de l'art. Ils produisent de l'art.
Des bébés qui font de l'art? Vous êtes sceptique? Voici la réponse d'Erika Parlato-Olivera.
Mais ce que j'entends, c'est qu'on savait, là, ces dernières années, enfin, le bébé est une éponge, il ressent tout. Enfin, on le pensait comme un récepteur de sensations, c'est-à-dire...
Ça, c'est vraiment le 20e.
20e siècle.
Voilà, on tourne la page. On ne va pas répéter Galilée aujourd'hui?
Non.
On respecte, fait partie de l'histoire, mais aujourd'hui, la physique fait d'autres choses. Mais autour du bébé, c'est pareil. Pourquoi pas? Il mérite aussi ça.
Qu'est-ce qui fait marcher les bébés? À deux pattes? À quatre pattes? Dans le prochain épisode du podcast Les super-pouvoirs des bébés, nous serons avec la chercheuse en neurosciences du développement, Marianne Barburotte. Marianne Barburotte s'est passionnée pour la marche quadrupède du nouveau-né et la marche bipède, dite marche primitive. Les super pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehaye, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et écrit par Zoé Varier. Les super pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.